Alors, ce matin, j'ai fait un petit tour assez théorique, assez dogmatique, on va dire, du temps et de ce qui est sacré dans le temps. Cet après-midi, je vous propose, de manière beaucoup plus modeste, un petit tour d'horizon des différentes manières de prier, et comme moi, je le vois, dans le couple. Donc, je ne vous parle pas d'expérience, sinon d'expérience reçue ou entendue. Et puis, ça sera beaucoup plus court, hein, ça devrait faire une demi-heure. Et après, donc, je vous invite soit à partager des manières de prier, comment vous pensez qu'on peut faire mieux. L'idée, c'est pas de dire faire mieux que les autres, l'idée, c'est de suggérer quelques idées. Et puis, ça peut être aussi de me poser toutes les questions que vous voulez, petites et imaginables, puisque vous m'avez sous la main. Voilà. Alors, donc, le titre de la conférence de cet après-midi, qui s'appelle « La prière et le couple ». On ne peut pas faire l'économie de la définition de la prière. La prière, on dit de manière le plus simple, la prière, c'est parler avec Dieu. Tout à fait juste. Si on veut faire un petit peu de théologie dogmatique, on va dire « La prière, c'est l'exercice de la vertu de religion ». Qui elle-même n'est qu'une partie de la vertu de justice. Alors si je vous dis ça, c'est pas pour faire savant, etc. C'est que ça a un intérêt, c'est de nous remettre dans le bon sens, c'est-à-dire de savoir que la prière, quand on prie, c'est pas parce qu'on est extraordinaire, qu'on est super, qu'on est très pieux, profond, etc. C'est qu'on fait ce qui est normal. C'est qu'on parle avec Dieu. Et à qui on doit tout, vous voyez ? Vous êtes jamais dit « nos enfants sont extraordinaires, ils nous parlent ». C'est normal, c'est dans l'ordre naturel de la justice, c'est que nous parlons avec Dieu parce qu'il est notre Père. Et donc ça, c'est on ne fait rien d'extraordinaire, on est des serviteurs inutiles, on fait ce pour quoi on est fait, parler avec Dieu. Voilà. Donc, parler avec Dieu, j'ai pris l'exemple des enfants, je pourrais peut-être pas prendre l'exemple des couples, il n'y a rien d'extraordinaire à parler avec son épouse. Je parle toujours comme un homme, hein, mais enfin, ça marche dans les deux sens, hein, vous savez. Voilà. Puis peut-être parce que les femmes, je ne sais pas, dans l'expérience, elles font moins défaut peut-être en ce sens. Hein. Donc voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est normal. Enfin, je veux dire que dans un couple, on se parle, c'est normal. C'est si on ne se parle pas, c'est si on ne prie pas, qu'il y a quelque chose d'anormal dans notre vie. Hein. La prière, moi je le dis à tous ceux que j'entends là, ces temps-ci en confession, toujours quand la question n'est pas venue, vous savez que normalement le confesseur n'interroge pas. Hein, c'est la tradition de notre. Pas tout à fait la tradition orientale, mais la tradition latine, hein, c'est que le confesseur n'interroge pas. Il vous écoute, il vous donne des conseils sur ce que vous avez dit, mais il ne vous interroge pas. Mais s'il y a quelque chose d'obvie, hein, soit qu'il le sait, soit que c'est quelque chose fondamental de la vie spirituelle que vous n'avez pas abordé, hein, quelqu'un qui se confesse et qui ne m'a pas parlé de sa prière, ça m'interroge. Hein, donc je dis, est-ce que tu pries ? Est-ce que vous priez ? Voilà. Et donc, parce que c'est naturel. Hein, la prière, c'est quelque chose, manger, dormir, notre corps nous le réclame immédiatement, hein, réfléchir, travailler, nos activités, quand on est étudiant ou quand on travaille, nous le réclame absolument. Mais prier, notre âme nous le réclame absolument, sauf que ça se voit moins. C'est dommage, mais c'est aussi nécessaire. Ne me dénoncez pas, hein. C'est plus nécessaire, évidemment. C'est parfaitement nécessaire. Nous en avons besoin pour vivre. Voilà. Alors, y a donc un lien naturel dans la prière de nous à Dieu. Mais évidemment, il y a aussi un lien surnaturel. C'est un cheminement vers Dieu. Voilà. Et dans un couple, on peut voir ça comme, vous connaissez cette jolie phrase de Saint-Exupéry qui est marquée partout, qui devient un petit peu une tarte à la crème, mais qui, malgré tout, a toute ma faveur, parce que vraiment, elle est belle, hein. S'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Donc effectivement, il y a regarder dans la direction de Dieu, bien sûr. C'est-à-dire regarder ensemble, dans un couple, vers Dieu. Mais ça peut aller beaucoup plus loin que ça. C'est déjà pas mal. Ça peut aller beaucoup plus loin que ça, c'est de se regarder l'un l'autre en Dieu. Mais c'est plus difficile, hein. Mais c'est-à-dire regarder l'autre comme mon chemin vers Dieu. Enfin, plutôt le vôtre. Donc, voilà, mon vis-à-vis à moi, c'est l'Église. Votre vis-à-vis à vous, c'est votre époux, votre épouse. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus que faire un petit truc ensemble. Faire un... on va faire une prière ensemble. Mais c'est bien, évidemment. Hein, mais c'est le chemin lui-même qui est cette prière. Alors, la prière, c'est une élévation vers Dieu. Donc, d'un acte intermittent, hein, on prie de temps en temps, ça tend à devenir un acte permanent. Parce que si la prière, c'est la conversation avec Dieu, c'est ça notre destinée. C'est-à-dire, notre destinée, prenez pas ça au sens du fatum hein, grec, enfin, comme un malheur ou je sais pas quoi, c'est ça notre appel, parler avec Dieu. Et donc, ça doit devenir un état permanent. Mais c'est exactement comme l'amour humain. Hein. C'est-à-dire que vous vous êtes rencontrés une fois, deux fois, vous vous êtes parlé, vous vous êtes vus, et c'était tellement important et tellement... que c'est devenu un état permanent. C'est ça le mariage. Hein. Et que c'est pour ça que c'est pas fini le jour où on s'est marié, heureusement, c'est un début. C'est que on a l'espoir que de jour en jour, ça devienne plus profond, plus intense, plus... Voilà, que ça se développe, vous voyez, dans la vie. Moi, j'ai la grande joie en avril prochain de célébrer les 50 ans de mariage de mes parents. On va faire une grande fête très humaine aussi, avec beaucoup d'amis et de gens de la famille. Et voilà, je suis émerveillé de voir que mes parents, 50 ans plus tard, moi je ne les connais depuis 46 ans, hein, que 50 ans plus tard, ils s'aiment toujours, qu'ils s'aiment encore, et qu'ils s'aiment encore plus. Voilà. Donc, l'amitié avec Dieu, hein, dans un couple, se nourrit jour après jour pour s'épanouir. Hein. Il n'y a pas de limite. La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Hein. Sinon, si c'est fini, etc., c'est que c'est une simple connaissance humaine et ce n'est pas très, très intéressant. Mais, hein. Voilà. Donc, il n'y a pas de limite dans cet état permanent. Et puis, c'est un échange aussi, la prière. C'est un échange, saint Thomas d'Aquin dit « admirabile commercium », un admirable commerce, vous prenez commerce au sens évidemment le plus noble, hein, c'est pas tarifé, mais c'est tout le contraire de la prière justement, en tout cas de la prière chrétienne, c'est un échange de cœur à cœur, voilà, admirable échange, une conversation. Alors c'est vrai que c'est difficile, il ne faut pas se le cacher, parfois, parce que... au moins, quand vous parlez à votre conjoint, vous êtes sûr que normalement, il vous répond. S'il ne fait pas la tête, normalement, il vous répond. Hein, donc, il y a un échange sensible. Voilà. Même s'il est plus ou moins amène, plus ou moins vif, plus ou moins je sais pas quoi. Mais il y a un échange sensible. Avec Dieu, hein, on a cette difficulté qu'étant purement spirituelle, notre conversation semble parfois buter. Il s'agit plutôt de creuser une présence, une disponibilité pour que Dieu nous parle. Ça, chacun fait une expérience très différente de la prière. Alors, pour devenir plus pratique, je vais passer j'ai pris le mot prière au sens le plus large du terme, hein, de toutes les relations avec Dieu, de toute la vertu de religion. En fait, je vais vous parler de la prière, bien sûr, mais de la religion au sens large, c'est-à-dire ce qui nous relie à Dieu. Hein, religere, unir, relier à Dieu. Alors, il y a des actes intérieurs et des actes extérieurs. Si je prends d'abord les actes, je crois que je me suis trompé dans mon truc, mais c'est pas grave, les actes intérieurs, hein, il y en a deux principalement qui sont la dévotion et la prière. D'abord, la dévotion. Alors, le mot dévot a plus tellement la cote, etc., mais comme vous savez que j'ai un petit côté vieillot, j'adore ce mot, voilà, hein. On disait au XVIIe siècle de quelqu'un qu'il était dévot, c'était le plus beau compliment qu'on pouvait lui faire. Hein. Les deux compliments du XVIIe siècle, c'est dévot et honnête homme. Alors là, quand on avait dit quelqu'un qui était dévot et honnête homme, c'était un homme extraordinaire, etc. Et un dévot, alors là, c'était vraiment... Voilà. Alors, bon, malheureusement, ce mot a vécu à cause des faux dévots de Molière. Hein. Mais s'il y a des faux dévots, dénoncer les faux dévots, c'est évidemment... C'est l'exception qui confirme la règle, ça veut dire que la dévotion est bonne. Puisque ce qui est mauvais, c'est les faux. Vous voyez ? C'est comme quand vous dénoncez l'hypocrisie, vous êtes en train de proclamer que la vérité est bonne. Donc, si vous dites qu'il y a des faux dévots, ça veut dire que la dévotion est bonne. Voilà. Donc, dévotion, qu'est-ce que c'est que la dévotion ? C'est se jeter avec empressement aux choses de Dieu. Voilà. Hein ? faudrait pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Hein, c'est une image qui devrait parler à des pères et des mères de famille. La dévotion, c'est quelque chose de bon, c'est ce qui nous livre avec empressement aux choses de Dieu. Alors, dans un couple, qu'est-ce que... Il y a la dévotion en général, il y a l'empressement général aux choses de Dieu. Alors ça, on n'est pas tous égaux, hein, on a, ça vient du cœur, c'est un élan du cœur, la dévotion. Donc, je me doute que dans un couple, on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde tout le temps. Hein. Et donc, dans un couple, c'est l'accompagnement de la dévotion à laquelle on est livré. Parce que, eh bien, soit que l'époux, soit que l'épouse aura telle ou telle dévotion qui peut nous sembler étrange, hein, parce que chacun charrie avec lui sa culture. Il y a des gens qui sont de pays différents ici. Saint-Nicolas, par exemple, voilà, dans ma culture à moi, ça a une importance folle. J'aurais très bien pu me marier avec une Bretonne ou... je sais pas, si on peut trouver pire, non, je sais pas, enfin plus, non mais, je veux dire plus loin de chez moi en France en tout cas, voilà. Non mais, vous voyez, chacun charrie une culture particulière et donc des dévotions particulières, et donc, dans un couple, hein, accompagner la dévotion ou encourager la dévotion de son conjoint, eh bien, C'est comme ça qu'on peut aider à la véritable dévotion, hein, et qui normalement devrait pouvoir nous enrichir, si ce n'est pas forcément la nôtre, c'est possible. Voilà. Donc la dévotion. Je ne sais pas, moi, parlons des choses pratiques. Hein, dans la famille, par exemple, dans ma famille, hein, les jours de fête religieuse, hein, c'est champagne. Voilà. Et c'est comme ça. Voilà. Donc il y a l'apéritif du dimanche. Ou l'apéritif des solennités, c'est du champagne. Voilà. Et puis sinon, où il n'y a pas d'apéritif, ou s'il y a un apéritif, c'est plus modeste, un petit verre de Porto, et voilà. Et donc, ben c'est un acte de dévotion. Voilà. Et c'est un acte de dévotion, ça veut dire que dans la famille s'incarne quelque chose. Oui, c'est un acte de dévotion, oui. Décidément, j'ai décidé que le vin aujourd'hui, hein, c'était, voilà. C'est le fil rouge, voilà. Enfin, c'est le fil, ça peut être rouge ou blanc d'ailleurs, mais donc c'est le fil rouge. Voilà, un acte de dévotion, ça peut se manifester dans les choses les plus humaines. Voilà, les plus humaines. En Italie, c'est pas ma culture, mais je suis toujours fasciné de voir en Italie quand les gens passent devant les statues de la Vierge. Alors ceux qui portent encore des chapeaux enlèvent leur chapeau, ou ce signe, ou etc. Vous voyez ? Bon, ben, des actes de dévotion populaires. Voilà. Comment on accompagne, hein, dans un couple l'un l'autre ? Et puis, on peut être du même pays, de la même région, etc. Et puis, n'avoir pas les mêmes habitudes dans des familles. Hein. Il y a des habitudes familiales. Je ne sais pas, moi, dans ma famille, ça vient de maman. On avait l'habitude à Noël d'offrir un de nos cadeaux aux enfants pauvres. Alors voilà, on devait choisir le plus beau, normalement. Pas toujours facile. Je ne vous dis pas que c'est ça qu'il faut faire, hein, parce que... Je vous dis pas qu'on n'a pas un peu maudit les pauvres parfois, mais... En tout cas, on a pris conscience. Bon, on devait choisir un des cadeaux qu'on ouvrait, on le mettait de côté, et le lendemain, on allait le porter soi-même. Hein. On allait le porter dans le village. Bon, moi, j'habitais un petit village, alors c'était facile. Hein, on se connaissait. Et donc, j'allais porter mon cadeau, voilà, mon frère, ma sœur, mes cousins, on était 5, 6, hein, on était, non, 7, pardon. Et donc, chacun allait porter son cadeau à qui il voulait. Voilà. Donc, c'est un acte, voilà, un acte de dévotion, c'est-à-dire un empressement aux choses de Dieu dans les choses les plus matérielles. Voilà. Bon. Alors, il peut y avoir des actes qu'on appelle, vous savez, les dévotions. On appelle ça faire ses dévotions. C'est un peu aussi péjoratif, un petit peu, hein. Mais, je sais pas, on en a parlé tout à l'heure, faire une crèche. Voilà. Peut-être qu'il y a des familles où on ne fait pas la crèche. Il y a des familles où on fait une crèche. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on peut faire en famille. On peut, vous voyez, l'époux et l'épouse peuvent se soutenir, s'intéresser. L'époux n'est pas obligé de dire, oh, bon, ma femme a fait une crèche, bon, c'est bien, c'est pour les gosses, je m'en fous. Vous voyez, non, c'est pas bien. C'est pas bon. C'est-à-dire que si votre épouse fait une crèche, ou si votre époux fait une crèche, hein, ça peut être dans les deux sens, l'accompagner, y trouver de l'intérêt, voilà. Hein, donc vous intéresser. Ou, je ne sais pas, moi, par exemple, placer un Christ ou une Vierge Marie chez soi. C'est une décision familiale, ça. Hein, y en a parfois qui mettent des Vierges Marie, voilà, même des grandes. Et donc, je ne vise personne, mais bon, et ils se reconnaîtront. Donc, mais c'est un acte familial. Hein, vous pouvez bien dire, oh, ma femme, elle a acheté ça, elle le met où elle veut, m'en fous. Bon. Ou mon mari, il a ses lubies, il est collectionneur, bon, très bien. Ou alors vous en faites un véritable moyen de prière, d'échange entre époux en disant on a acheté ensemble, ou l'un l'a acheté, n'importe, ou acquis, ou. Et puis se dire où sera-t-il bien ? Vous voyez, c'est accompagner son époux dans sa dévotion particulière. Alors, ça c'était la dévotion. Le deuxième point, c'est la prière. On va rentrer dans les choses plus intérieures. Hein. La prière, c'est, pour parler techniquement parlant, c'est un acte de la raison pratique. C'est-à-dire, c'est un acte intérieur, non spéculatif. C'est-à-dire, c'est une action. C'est intérieur, c'est spirituel, mais c'est une action. Voilà. Je prie. Voilà. Alors, il y a quelque chose qui est très ennuyant dans la prière, enfin très ennuyant pour ceux qui ont un petit peu du mal à reconnaître Dieu, c'est que il y a une humilité naturelle dans la prière. Hein. Prier, c'est se mettre en dessous. Se mettre en dessous, c'est Nietzsche, je vous l'ai déjà cité, je crois, hein. C'est Nietzsche qui supportait pas l'idée de la prière, parce que, à cause de sa théorie du surhomme, etc., et qu'il avait bien remarqué que prier, c'est se mettre en dessous, quoi. Il n'y a pas... Parler aux gens, il y a deux manières fondamentales, hein. Si j'exclus l'égalité parfaite, qui est toujours un peu compliquée, hein, où je vous dis vous vous levez, vous fermez la porte tout de suite, ça s'appelle un ordre, ou je vous prie, hein, s'il vous plaît, je vous demande si vous aviez la gentillesse, hein, de fermer la porte, parce que j'ai un courant d'air qui me gêne, si vous aviez cette gentillesse de me rendre ce service. Donc, une prière, normalement, alors ça peut être factice, hein, parce que je peux avoir un pouvoir et puis vous demander gentiment, mais enfin, vous voyez, c'est l'idée, prier quelqu'un, normalement, c'est quand vous priez, vous suppliez, c'est-à-dire vous vous mettez vraiment en dessous, vous vous mettez, voilà. Et donc, pour quelqu'un qui ne croit pas en Dieu ou qui ne supporte pas l'idée de l'au-delà ou d'une transcendance, c'est insupportable. Et donc, prier, c'est vraiment trouver une place inférieure, c'est reconnaître qu'il y a un créateur et que je ne suis qu'une créature, quoi, pour être très simple. Alors, comment on fait pour prier ? Donc, ça, prier, c'est l'oraison. Orare, ça veut dire prier, c'est l'oraison. Mais il y a de multiples manières de prier. D'abord, il y a les manières vocales. Alors, on peut prier en utilisant des prières habituelles, traditionnelles. On peut, les chrétiens, la prière des chrétiens, évidemment, c'est notre Père. Et puis après, si on veut faire un ordre, c'est toutes les prières qu'on trouve dans les Écritures, hein. Le « Je vous salue Marie », le « Magnificat », qui est utilisé spécialement dans les équipes Notre-Dame, le « Benedictus », donc les cantiques Zacharie, etc. Enfin, tout ce qu'on tire de la Bible comme étant une prière à toute notre faveur, évidemment. Hein. Donc ça, c'est assez facile de le partager entre époux, parce que c'est conventionné, c'est déjà, oui, on nous l'a donné, et on peut soit l'avoir déjà soi-même, chacun dans sa tradition familiale, soit si on l'a pas, on peut l'apprendre facilement. C'est très, vous voyez, c'est facile de prier un « Je vous salue Marie » ensemble, même si... voilà. Après, la deuxième manière de prier, c'est la prière vocale, mais qu'on articule au fur et à mesure. Alors ça, on est très, très, très inégaux en la matière. Hein. On l'articule intérieurement ou extérieurement. C'est vrai que si on veut prier avec son conjoint, c'est plus facile de le faire extérieurement, une prière vocale. Hein, c'est-à-dire, c'est de dire, ben voilà, oh ben tiens, je remercie le Seigneur, Seigneur aide-moi, etc. Ça. Et il y a des couples qui prient de cette manière. C'est pas toujours facile. Pourquoi ? Parce que c'est très personnel, l'expression de la foi. Hein. Et on n'est pas tous égaux. Il y a des gens qui parlent plus que d'autres. Parfois, il y en a un qui écoute l'autre. Et dans ce cas-là, il faut que l'autre puisse écouter le silence de l'un, vous voyez. Il faut, il n'y a pas de manière normale de prier. Il y a plusieurs méthodes pour prier. Donc, si vous n'avez pas tous les deux la même méthode, c'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce que vous pouvez malgré tout prier ensemble ? Il y en a un qui parle, l'autre qui écoute, ou qui semble, enfin, qui est plutôt quoi, vous voyez. Donc, voilà. Des manières vocales de prier. Deuxième, ensuite, si on change de registre, il y a ce qu'on appelle la méditation. Là, ça devient assez difficile de méditer ensemble. Ça devient plus compliqué, je pense. Méditer, c'est-à-dire sur une idée, sur un texte biblique, sur un aphorisme spirituel, converser avec Dieu. Voilà. Donc, vous voyez, ça devient beaucoup plus intérieur. Ça me semble peut-être encore faisable. L'exemple type, c'est ce qu'on appelle la lectio divina, c'est-à-dire la lecture de la Bible. Donc chacun lit pour soi un passage de l'Évangile ou de l'Écriture, et puis dit ce qu'il en pense, ce qu'on essaie de faire normalement dans les équipes Notre-Dame, tous les couples ensemble. Enfin, je ne sais pas si c'est dans les équipes Notre-Dame, dans mon équipe, ça se passe. Et donc, on lit la parole de l'Écriture qui nous est donnée, l'extrait de l'Écriture, je voulais dire. Et donc, on dit, il y a ceci, il y a cela. Alors la grande règle, vous le savez, c'est de ne pas juger ce que dit l'autre. Voilà, c'est de comprendre, d'essayer d'accueillir. Donc ça, c'est quelque chose d'une méditation. Donc qui peut se pratiquer quand même à deux, si vous en avez le loisir ou le goût. Voilà. Et puis enfin, il y a la contemplation. Ça, c'est une autre manière de l'oraison. Là, la contemplation, contempler ensemble, ça me semble assez compliqué, pour être très honnête, mais j'avoue que je dois manquer de pratique. On peut contempler, on peut garder le silence ensemble. Oui, oui. Après, ce qui se passe intérieurement dans chacun des cœurs, on peut avoir cette délicatesse de laisser le silence habiter les cœurs. Mais la contemplation, c'est la jouissance intérieure des choses de Dieu, c'est-à-dire au-delà même de la méditation, au-delà de ce qu'on a pu articuler dans notre intelligence, et ce qu'on goûte de Dieu lui-même. Alors, s'il ne me semble pas possible de méditer on peut méditer conjointement, chacun un petit temps, après, on peut toujours faire une récollection de ce qu'on a goûté. On dit, tiens, moi, j'ai ressenti ça, c'est ce qu'on appelle un témoignage de prière, un témoignage de la foi. On peut en dire un mot. Je ne voudrais pas vous refroidir, mais ne saoulez pas votre conjoint non plus avec vos extases mystiques. Mais vous avez le droit de lui dire quelque chose de ce que vous avez ressenti. Voir si ça a un écho chez lui ou chez elle, ou pas. Parce que il y a des expériences mystiques qu'on fait, les autres, d'accord. Inversement, ça peut éclairer mon chemin spirituel. Et puis, ce que vous me racontez aujourd'hui qui ne va pas m'intéresser follement, peut très bien m'intéresser demain, dans un an, dans deux ans. Vous voyez, la prière, c'est quelque chose de mouvant, c'est une relation. Donc, ça peut changer. Voilà. Alors, voilà ce qui était en rappelant que c'est bien des actes intérieurs. Maintenant, la deuxième partie sont les actes extérieurs de la prière. Le premier, c'est l'adoration. Alors, vous vous doutez que pour ce qui est des actes extérieurs, ça va être plus facile de les partager en couple, évidemment. Pourquoi ? Parce que ces actes entraînent non pas quelque chose d'abord de purement intérieur, mais une attitude extérieure, et donc ça, c'est plus facile à partager en couple, évidemment. Donc, l'adoration, c'est le culte de l'atrie, c'est-à-dire rendre à Dieu un culte unique. C'est la proskynèse dans tout l'évangile. À chaque fois que vous voyez quelqu'un se prosterner devant le Christ, c'est anormal. Enfin, c'est anormal. C'est-à-dire qu'ils ont compris qui c'était. Ils ont compris qu'il était Dieu. J'ai coutume de dire, moi, à mes élèves, parce que ça les marque, que je ne me mets à genoux devant personne. Personne. Mais sauf Dieu, bien sûr. Donc, quand on se met à genoux, on est sûr que c'est pour Dieu. Donc, le culte d'adoration qu'on manifeste, qui là aussi est intérieur, mais qu'on manifeste par un geste extérieur, que ça soit la génuflexion, que ça soit les deux genoux, ou la pure prosternation, c'est un geste qui manifeste que quelque chose dépasse infiniment notre être. Sinon, on ne se mettrait pas à genoux. Si c'est pour dire merci à quelqu'un, j'ai pas besoin de me mettre à genoux. Je lui dis merci, je peux incliner la tête à la rigueur, mais c'est tout. Voilà. Entre personnes, c'est la limite de ce qu'on peut faire. Se mettre à genoux, c'est vraiment, c'est pour reconnaître que Dieu est Dieu et qu'il est là. Voyez. Alors, je ne vous dis pas de vous mettre à genoux devant votre épouse ou devant votre époux, encore que quand je sais pas, peut-être vos enfants, c'est plus facile. Hein, quand vos enfants ont communié, par exemple, ils ont le Christ en eux, ils ont. Pour manifester ça, j'ai pas retrouvé, mais il y a un père de l'Église qui raconte ça. Hein, ils s'agenouillent devant les premiers communiants pour manifester que Dieu habite en eux. Hein, il y a quelque chose de l'adoration entre dans les conjoints, hein, quand on la pratique ensemble. Alors, d'un point de vue pratique, on peut se relayer devant le Saint-Sacrement, on peut aller devant le Saint-Sacrement tous les deux au même moment, on peut partager un temps d'adoration. Et c'est assez, assez facile, puisque justement c'est cet acte extérieur qui nous lie. Voilà. Alors, l'acte d'adoration. Un autre acte extérieur est le sacrifice. Alors, au sens habituel du terme, le sacrifice, c'est quand on perd quelque chose, hein, on le brûle, etc. Au sens théologique, le sacrifice, c'est d'abord une sanctification. Hein. C'est offrir à Dieu quelque chose de ce monde pour le rendre saint. Saint immaculé en sa présence, c'est pas forcément le perdre. C'est pas sacrifier au sens purement païen, c'est-à-dire brûler. Même si dans la religion chrétienne, on utilise en partie brûler de l'encens, par exemple, hein, c'est perdre la valeur, ça coûte de l'argent, l'encens. Aujourd'hui, un peu moins que ça l'était à l'époque du Christ, hein, puisque vous savez que les rois mages apportent de l'encens, c'est un bien précieux. Est-ce que c'est un bien parfaitement pour Dieu, l'encens, puisque justement il brûle et qu'il disparaît, voilà. Mais dans le sacrifice chrétien, il n'y a pas d'abord ce sens de disparition, d'holocauste, c'est l'offrande, la sanctification. Voilà. Et toutes les bénédictions qu'on demande, elles sont en quelque sorte des sacrifices, c'est-à-dire, pour prendre quelque chose de plus de basique, hein, quand moi je bénis une voiture, par exemple, c'est invoquer la bénédiction de Dieu sur un bien matériel, c'est invoquer notre propre engagement à utiliser pour le bien. Et donc, je le rappelle toujours aux gens pour qui je bénis les voitures, qu'ils s'engagent du coup à les utiliser comme pour Dieu, c'est-à-dire en respectant les règles de sécurité, par exemple. Vous voyez, ce n'est pas une espèce de sauf-conduit pour faire le con. La bénédiction, ce n'est pas ça. Hein, la bénédiction, au contraire, c'est que j'implore la bénédiction de Dieu, j'implore que Dieu dise du bien, hein, bénisse, encourage mon action, et donc moi-même, je vais me couler dans cette action, qui est bonne. Donc ce n'est pas une bénédiction, ce n'est pas un sauf-conduit pour faire des bêtises. C'est l'inverse. C'est un engagement à faire le bien. Voilà. Ensuite, il me reste deux, très simplement, l'oblation, les prémices et la dîme, qui sont des actes extérieurs du culte. Là, l'oblation, il s'agit d'une perte, il s'agit d'offrande. Hein. Alors la dîme, c'est plutôt pour l'Église, mais l'oblation, elle peut être pour tout le monde. Ça, c'est un acte qu'on peut faire en couple, hein, décider ensemble de ce qu'on peut donner. On n'est pas obligé de faire la charité à la sauvette, c'est-à-dire dans son coin. On peut se dire, bon ben voilà, que penses-tu? À qui pourrait-on, à quelle association, à quelle personne pourrait-on confier cet argent ou ce bien dont on n'a pas besoin? Voilà un acte de la prière, hein, au sens large, que vous pouvez faire en couple, que je vous encourage à faire en couple même, parce que d'abord vous engagez les biens de la famille, donc normalement vous devez le faire ensemble, en disant, peut-être que l'un aura l'idée de donner à telle association, l'autre à telle autre. Alors, soit que vous couperez la poire en deux, soit que vous rallierez à l'une ou l'autre idée, ou à une troisième. Mais voilà, un acte de prière que vous pouvez faire ensemble. Voilà. Dernier acte extérieur de la prière, c'est les vœux. Alors, ça peut vous sembler peut-être étonnant, puisque les vœux, ça sonne religieux. Pas seulement. Vous pouvez faire des vœux sur les choses saintes ensemble. Vous pouvez faire le vœu, par exemple, c'est un vœu personnel et privé, mais qu'on peut faire à deux, de faire un pèlerinage, à Notre-Dame de Lourdes, à je ne sais pas quel sanctuaire marial, ensemble. Vous pouvez faire le vœu d'aller, mais ça peut être très simple, vous pouvez faire le vœu de dimanche prochain d'aller à la rue du Bac faire un petit pèlerinage. Et vous voyez, le vœu, c'est un engagement sur l'avenir de déterminer notre conduite. Vous pouvez faire un vœu particulier en famille. Voilà. Et puis, le dernier, alors ça c'était, donc, il y avait les actes intérieurs puis les actes extérieurs, c'est les deux grandes parties. Et j'ai un petit appendice qui est un peu particulier, qui est la louange. La louange, c'est l'usage du nom de Dieu. Ça sublime un petit peu tout ce que je viens de dire, parce que la louange, en quelque sorte, l'action de grâce et la louange sont pas des actes en eux-mêmes, sont des attitudes fondamentales du chrétien, et qui se retrouvent dans tous les actes de prière. Et louer le Seigneur, c'est une attitude que parfois nous, on a perdu un peu, dans notre société très sécularisée. Vous voyez, je suis très étonné, à Stanislas, pourtant Dieu sait, s'il y a un lycée catho, voilà. Mais c'est étonné parce que les enfants qu'on a, ils sont dans la même société que tout le monde. C'est très dur de leur faire dire mon père ou monsieur l'abbé. La tradition de Stanislas, c'est plutôt monsieur l'abbé, mais qu'importe. Ce qui leur vient naturellement, c'est monsieur. Parce que, vous voyez, pas de religion dans la société. Vous voyez, ça, c'est vraiment la pression. C'est nouveau. Moi, je n'ai que 46 ans. Ceux qui sont plus jeunes que moi peut-être sont étonnés de ce que je raconte, mais ceux qui sont plus vieux que moi, ça doit consonner, évidemment. C'est nouveau. Enfin, il y a 20 ans, ça n'existait pas. Donc c'est une espèce de truc qui vient de pousser, peut-être, rentrer dans la politique, de l'islam, de je ne sais quoi. Enfin bref, pour une raison ou pour une autre, c'est tout nouveau que plus de relation à Dieu dans la vie. Chacun prie comme il veut dans sa maison. À la rigueur, il peut aller à un lieu de culte. Ça va, mais il faut arrêter là. Donc vous voyez, après, les crèches, les sapins de Noël où il y a une étoile, les machins, ça non. Et si vous allez dans des pays religieux, la référence à Dieu, notamment la louange et l'action de grâce, c'est tout le temps. Alors Dieu sait que je n'ai pas une amitié folle pour l'islam, ceux qui me connaissent, voilà. Mais n'empêche que dans l'islam, sans cesse, on remercie Dieu. Vous ne pouvez pas parler à un musulman sans qu'il vous dise grâce à Dieu, choukran lillah. Non mais il peut. Abdelillah, etc. Vous ne pouvez pas lui parler sans qu'arrive dans la conversation grâce à Dieu, merci à Dieu, louange à Dieu, selon la volonté de Dieu. Allez. Et alors nous, non, ça c'est la vie, il n'y a rien à voir avec Dieu. Et puis je cite les musulmans, mais. C'est vrai aussi, on passe pas le Gange à Calcutta, sans que tous les gens qui sont dans le bus s'inclinent de part et d'autre pour saluer le Gange, quoi. C'est évident. Le chauffeur, faut qu'il fasse gaffe. Enfin, il fait aussi. Voilà. Mais on a des peurs quand on est. Enfin, bon, ça c'est autre chose. Voilà. Mais ça, c'est vrai que parfois ça me fait peur aussi quand j'entends les musulmans. Moi, je prends toujours des compagnies musulmanes. Par parenthèse, je vous ai dit tout le mal que je pensais vous dire, mais je peux vous dire aussi le bien, c'est que moi je voyage toujours quand je vais au Bangladesh, comme tous les ans je vais au Bangladesh, je voyage toujours avec une compagnie musulmane, d'abord c'est un peu la seule, à part British Airways, mais c'est les seuls qui me donnent 30 kilos de bagages parce que je suis prêtre, bien sûr. Ah, vous êtes religieux, en prêtre, ce n'est pas trop religieux, bien sûr, vous aurez plus de bagages, bien sûr. Bien sûr, vous aurez plus de bagages. C'est évident. J'ai juste besoin de dire que je suis prêtre, c'est tout. C'est pas moi qui ai pensé, mais c'est un jour, la petite dame de la paroisse qui avait décidé d'aller acheter les billets. Mais attention, le père Thierry, c'est un prêtre et tout. Alors le gars, il dit, bon, si c'est un prêtre, alors non, c'est pas 20 kilos, c'est 30 kilos. Ouais. Alors là aussi, la présence de Dieu. Du coup, en vous racontant ça, je ne sais plus ce que je voulais vous raconter parce que je me perds tout seul comme un grand. Mais voilà, rendre grâce à Dieu. D'accord ? Rendre grâce à Dieu en famille, vous voyez, c'est facile. Il suffit de parler à son épouse ou à son époux et de dire merci Seigneur. C'est grâce à Dieu j'ai réussi. Merci Seigneur de que tu sois là. Vous voyez, c'est l'action de grâce, quelque chose de fondamental dans la vie de couple, et la louange, c'est de le louer sans cesse. Voilà. Alors, comme promis, j'ai été un tout petit peu plus long que prévu, évidemment, ça c'était prévu que ça serait plus long que prévu. Et donc, je suis à votre écoute, soit pour vos questions, soit pour les idées que vous avez de la prière en couple.
Attendez, je vais arrêter ce truc-là.